Les parts actualités. Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Les Parts Actualités, édition du mardi 6 février 2018. En manchette aujourd'hui, semaine québécoise de la canne blanche, les personnes aveugles et malvoyantes du Québec souhaitent aider les élus à y voir plus clair. Spectre de l'autisme, Québec investit 700 000 $ dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Budget 2018-2019 du Nouveau-Brunswick, les aînés et le vieillissement de la population à l'ordre du jour. Et en entrevue, je reçois France Monahan qui nous parle de la quatrième capsule vidéo d'une série de 10 réalisée par le groupe Le Regroupement pour la trisomie 21, capsule à laquelle Mme Monahan a participé pour parler du message aux futurs parents, c'est le thème de cette capsule. Et aussi comme autre invitée, Nathalie Chartrand qui nous parlera du tournoi invitation de Gold Ball de Montréal qui a eu lieu à la fin du mois de janvier. Elle nous parlera des vainqueurs et de ce qui s'est passé. Hélène Denis qui vous accompagne. Les personnes ayant une déficience visuelle doivent composer quotidiennement avec de nombreuses difficultés. À l'occasion de la prochaine édition de la Semaine québécoise de la canne blanche qui aura lieu cette année du 4 au 10 février, ça a commencé dimanche, les élus municipaux provinciaux, non, le 4 c'était dimanche, n'est-ce pas Jean-Sébastien? Donc, du 4 au 10 février, depuis dimanche, les élus municipaux provinciaux et fédéraux sont invités à afficher leur soutien aux personnes malvoyantes en relevant un défi pour les sensibiliser à ces réalités vécues par plus de 300 000 personnes au Québec. Plusieurs organismes communautaires militent en faveur d'aménagements favorisant l'accès pour tous aux lieux publics et à l'information. En effet, si les avancées technologiques et réglementaires ont pu contribuer ces dernières années à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap visuel, d'importantes barrières existent toujours, freinant ainsi l'atteinte de l'égalité pour ces personnes. Plusieurs mesures sont à la portée des élus de tous les paliers de gouvernement afin d'abaisser ces barrières. C'est pourquoi des associations de personnes en situation de handicap visuel souhaitent aider des conseillers municipaux, maires et députés de plusieurs régions à y voir plus clair en matière d'accessibilité universelle par l'organisation d'activités se voulant ludiques et pédagogiques. Les représentants des médias sont également conviés à assister à ces activités. Il est possible de connaître les détails des activités organisées à l'occasion de la Semaine québécoise de la canne blanche en consultant sur Facebook, sur la page Facebook Semaine québécoise de la canne blanche ou en contactant la ou les associations des personnes handicapées visuelles de votre région administrative. Dix actions prioritaires en 100 jours, c'est sur le site uquebec.ca. Les places libres étaient rares au Studio Théâtre Alfred de la Liberté le 24 janvier dernier. Plusieurs membres de la communauté universitaire s'étaient déplacés pour assister à l'allocution inaugurale de la nouvelle rectrice, Magda Fusaro, qui a présenté 10 actions prioritaires à entreprendre au cours des premiers mois de son mandat. Vous reconnaîtrez dans le programme une communauté 10 actions 100 jours, les thèmes que j'ai défendus l'automne dernier, lors de la course au rectorat, a déclaré la rectrice, un programme articulé autour de nos valeurs. Magda Fusaro a appelé la communauté à participer au déploiement des actions proposées. « Nous aurons à collaborer tous ensemble pour les mener à terme », a-t-elle souligné, ajoutant qu'il fallait profiter de cette période pour réfléchir sur les grands enjeux auxquels l'UQAM est confronté et sur son rôle dans la société. La rectrice a rappelé l'engagement de l'UQAM et de sa fondation pour que le tiers des montants recueillis, 33 millions de dollars, dans le cadre de la campagne majeure de financement lancée la semaine dernière, soit dédiée exclusivement aux bourses pour les étudiants. Elle a insisté sur l'importance de se doter d'un plan d'action pour une éducation inclusive qui tienne compte des besoins des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers et autochtones, ainsi que des étudiants parents. Nous devons accorder une attention particulière aux communautés LGBTQ, a-t-elle indiqué, et favoriser une meilleure communication entre la direction et les associations étudiantes. En matière d'enseignement en ligne, Magda Fusaro a mentionné l'existence d'un projet pilote d'une durée de 3 ans proposé par le vice-rectorat au système d'information portant sur la formation en mode présentiel enrichi, hybride, bimodal et à distance. Mieux reconnaître et valoriser l'implication étudiante, initiative scientifique, artistique ou sociale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UQAM, fera l'objet d'une réflexion collective. Chaque semaine jusqu'au 21 mars, Journée mondiale de la trisomie 21, on parle d'un thème de la vie d'un jeune vivant avec la trisomie 21 avec un membre de sa famille. Et France Monane, je crois qu'elle est bien populaire parce qu'on a fait appel à elle une autre fois pour participer à une autre capsule, la quatrième, sur le thème du message aux futurs parents. Bonjour, Madame Monane.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Oui, alors... Si on parlait de Joël, il a 29 ans, votre fils est un enfant trisomique?
Oui.
Un adulte trisomique?
Un adulte, oui, effectivement.
Et
oui.
Si on se reporte au tout début, comment vous avez réagi à l'annonce du diagnostic?
En fait, premièrement, ça a été vraiment mal fait.
Ah oui?
Alors, très mal fait. Donc, ça a été annoncé au père de Joël de façon brève, peu rassurante et en lui demandant de ne pas me le dire parce que pour les prochains 24 heures parce que je venais d'avoir une césarienne, ce qui était, vous comprenez, totalement inhumain de demander ça à mon avis.
Ouais.
Évidemment que dès que je l'ai vu entrer dans la chambre, j'ai su qu'il se passait quelque chose.
Vous avez lu sur son visage.
J'ai lu sur son visage.
Ouais.
Et puis, par la suite, je vous dirais que moi, là, sincèrement, j'ai trouvé ça difficile les 6 premiers mois. Je dirais que ça m'a pris 6 mois vraiment à accepter que mon enfant serait différent et que ma vie serait peut-être différente. Ça, je ne le savais pas trop,
mm-hmm.
mais que mon enfant serait différent. Ça m'a pris 6 mois à accepter.
Qu'est-ce qui vous a aidé à accepter, justement?
D'être dans l'action. Donc, c'est ça. Donc, bouger rapidement. Dans les 6 premiers mois, j'ai commencé toutes les démarches. Alors, pour m'inscrire les démarches auprès du gouvernement, les démarches auprès des associations communautaires, en parler avec les amis, avec la famille, c'est ce qui m'a aidé. C'est mm-hmm. ce qui m'a aidé vraiment d'accepter.
Et de quelle façon l'arrivée de Joël a eu un impact sur votre couple?
C'est-à-dire que, en partant, l'arrivée d'un enfant normal, c'est pas toujours évident pour un couple. C'est pas dit que le couple, même si ce sont des amoureux, que le couple va toujours bien s'entendre sur les valeurs à transmettre à l'enfant ou les façons d'éduquer un enfant et tout. Donc, je dirais que c'est certain que avec l'arrivée d'un enfant différent, dans mon cas à moi en tout cas, on se questionne davantage. Donc, il y a plus de discussions, il y a peut-être plus d'accrochages. Par contre, je parle de mon expérience à moi, mais aussi, je sais que d'autres couples, ça fait l'inverse, ça les a soudés davantage.
Mm-hmm.
Et par moments, ça a été ça aussi dans mon couple. Mais je suis séparée, mais c'est pas, je suis pas capable de dire si c'est en lien avec l'arrivée de Joël et je ne crois pas.
Ouais,
je crois sincèrement que je me serais séparée de toute façon.
Et Joël, c'est l'aîné de la famille. Vous avez eu d'autres enfants?
Non, c'est le deuxième.
Ah, c'est le deuxième.
Oui.
Et la dynamique familiale, comment ça s'est passé au début? Comment vous avez expliqué la différence à vos autres enfants?
Je pense pas. Judith, ma fille, avait 4 ans.
Mm-hmm.
Je pense qu'on lui a expliqué assez tôt, je dirais, dès qu'elle avait, dès le début. Mais évidemment, c'est une petite fille de 4 ans. Fait qu'on dit ça en des mots très simples et on n'en dit pas trop.
Oui.
Puis au fur et à mesure qu'elle vieillit, on complète, on explique, elle constate, elle pose elle-même ses questions. Et puis,
est-ce que vous avez eu des ressources qui vous ont aidé justement à expliquer ce qu'était un enfant trisomique?
Ah ben oui, entre autres le regroupement pour la trisomie 21. Pour nous autres,
ah oui.
Fait, dès le début, ça a été une ressource incroyable et ça l'est toujours.
Mm-hmm.
Alors, et l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle et aussi quand sont arrivés les services gouvernementaux,
bon.
Donc l'éducatrice spécialisée.
Vous vous êtes pas senti perdu tout seul au monde, abandonné?
Non.
Non.
Non, pas du tout. Mais il faut tout, à mon avis, là, je suis un conseil à donner, il faut agir rapidement, il faut aller les chercher rapidement les ressources.
Alors, dès qu'on connaît la situation,
oui.
Il faut agir.
Ah, à mon avis, oui. Alors, c'est ce qui aide à... Oui, puis plus tôt on a des services, mieux c'est pour tout le monde.
Oui.
Pour la famille, pour l'enfant trisomique lui-même, mieux c'est pour tout le monde.
Alors, est-ce que ça serait le message fondamental le plus important que vous souhaitez passer à travers cette capsule, message aux futurs parents?
Oui, s'entourer très rapidement, aller chercher des services très rapidement, mais aussi, là... dès le départ, croire aux possibilités de notre jeune. Alors, ne pas lui fixer des limites, le mettre dans toutes sortes de situations et le plus possible dans des situations de succès. Mais
quel genre de relation vous avez avec Joël aujourd'hui?
Une belle relation.
Oui?
Oui, j'ai une belle relation.
Il va bien, votre garçon?
Il va bien. Il va très bien.
Ouais.
Il va très bien. Alors, il a une belle vie épanouie, remplie. Il s'accomplit de façon professionnelle, dans des loisirs. Il est entouré de sa famille. Il a une belle vie et moi, j'ai une très belle relation.
Mm-hmm. Il procure, il vous donne du bonheur, finalement, cet enfant.
Il me donne beaucoup de bonheur, comme ma fille m'en donne beaucoup.
Elle s'appelle comment, votre fille?
Judith.
Judith. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit tantôt.
Oui.
Deux J. Joël et Judith.
Oui, 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 tout à fait. Et puis, oui, il me donne beaucoup de bonheur. Puis, dès qu'il m'en a donné beaucoup, dès le départ.
Oui.
Alors, puis ça, c'est un autre message. Alors, oui, il faut tout de suite commencer à stimuler, aller chercher de l'aide, mais il faut s'amuser. Alors,
oui.
Il faut avoir du plaisir. Il faut avoir du plaisir avec notre personne, notre enfant trisomique, autant qu'avec l'autre.
Oui, mais quand vous dites qu'il faut avoir du plaisir, il faut que ça vienne naturellement. Ça
oui.
se commande pas.
Non, effectivement,
oui.
Ça se commande pas. Mais si on se dit que oui, on peut l'amener à telle place et que ça sera pas compliqué, puis que on peut être surpris du plaisir qu'on y trouve dans les différentes activités.
Bon, alors si on veut en savoir plus, Madame Monahan, sur votre témoignage dans la quatrième capsule sur le thème du message aux futurs parents, l'adresse est simple, trisomie.qc.ca. Un grand merci d'avoir été avec nous.
Bien, ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Au revoir.
Bloc régional, le gouvernement Couillard concrétise son plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme. Il débloque une enveloppe de 708 000 $ afin de venir en aide aux personnes souffrant du trouble du spectre de l'autisme et à leurs familles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une somme récurrente de 628 200 $ fait partie de ce montant. C'est sur le site de Radio-Canada. Cet investissement s'inscrit dans le plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, cet investissement permettra d'augmenter le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui bénéficient du programme d'intervention comportementale intensive. Il contribuera aussi à éliminer les listes d'attente et à augmenter le nombre de familles qui reçoivent du soutien pour des services de répit, de dépannage et de gardiennage. On estime que 340 personnes et leurs familles pourront profiter des services développés grâce à ce nouveau financement pour la région. La PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martine Couture, a présenté l'un des programmes visés par cette annonce. Cet argent va servir pour un type d'intervention spécifique, l'intervention comportementale intensive auprès des enfants de 0 à 5 ans, pour les aider à adopter des comportements adéquats, gestion de la colère, gestion de l'anxiété, mais avec des outils particuliers, un travail en équipe multidisciplinaire spécifique auprès de l'enfant et de sa famille. Le plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme est le résultat du premier forum québécois sur le trouble de l'autisme qui s'est tenu au Québec en février 2016. Animal et personnes âgées font bon ménage, c'est sur le site de l'information du nord-saint-agathe.ca. Ce n'est plus à prouver, la zoothérapie a des bienfaits immenses sur les aînés, tellement que des centres d'hébergement de la région y ont recours pour leurs pensionnaires en perte cognitive. Malheureusement, ce service est maintenant menacé. C'est une question de relève qui vient compliquer les choses. Pour Suzanne Legault, la zoothérapie est un métier. Elle dispense des services dans les CHSLD de la Belle et Mont-Tremblant, ainsi qu'au pavillon Philippe-Lapointe de l'hôpital de Sainte-Agathe. Malheureusement, elle avance en âge et doit modérer ses activités. Cependant, elle ne connaît aucun zoothérapeute prêt à travailler autant au Nord. Aux yeux de Mme Legault, qui est la directrice du Centre de zoothérapie communautaire des Laurentides, sa mission est essentielle. Les exemples ne manquent pas. Dans le cas de perte cognitive, l'animal va souvent bâtir un pont entre l'aîné et le personnel médical. En parlant du chien ou du chat qu'il avait avant de venir au centre, on stimule sa mémoire et sa capacité de parler. Pour Suzanne Legault, il ne fait aucun doute qu'un zoothérapeute certifié serait capable de gagner sa vie dans le Nord. Juste avec les aînés, les besoins sont énormes, déclare-t-elle. Il y a aussi des développements possibles dans la région pour œuvrer auprès de deux autres clientèles, les enfants dans les écoles et les personnes atteintes de déficience intellectuelle. Pour en savoir plus sur les services offerts par le Centre de zoothérapie communautaire ou s'offrir comme bénévole, il faut appeler au 450-240-0371. Je répète, 450-240-0371. L'ASAC, qui est l'Association sportive des aveugles du Québec, se consacre à développer la pratique du sport et à sensibiliser le grand public et les autorités au plein potentiel des personnes vivant avec une déficience visuelle. Et l'ASAC nous parle de la 18e édition du tournoi invitation de Goalball de Montréal, entre autres choses. Avec la directrice générale, on s'entretient tout de suite. Nathalie Chartrand, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Très bien.
Oui, alors êtes-vous fière de la 18e édition du tournoi invitation de Goalball de Montréal qui a eu lieu récemment, les 26, 27 et 28 janvier dernier?
Oui, oui, ça s'est bien passé encore une fois. Oui. Nos Québécois ont fini en cinquième place sur 8. Selon l'entraîneur, Nathalie Séguin, elle, c'est ce qu'elle visait finir dans les cinq premières.
Alors, elle a atteint... Son but, ses objectifs. Qui en sont les grands vainqueurs chez les femmes et chez les hommes?
Chez les femmes, c'est une équipe américaine. En deuxième position, c'est l'Ontario. Et en troisième, c'est une autre équipe américaine. Et du côté masculin, c'est une surprise, l'Alberta.
Ah oui?
Oui, oui.
Des Canadiens?
Oui, exactement, on aime ça. Puis une équipe américaine... et la Colombie-Britannique.
Ah oui, d'accord. Est-ce que il y a eu des belles surprises? Bien là, vous venez de nous en donner une, là, parce que du côté des hommes, vous attendiez pas à ce qu'il y ait des Canadiens qui gagnent, qui arrivent au sommet?
En fait, c'est que l'Alberta, c'est la première fois qu'elle gagne ce tournoi-là, et je vous dirais même qu'ils sont en finale.
Ah oui?
Oui, oui, oui. Ils se rendent même, tu sais, ils ont même pas... ils se rendent pas, mettons, pour la médaille de bronze habituellement. Là.
Alors, c'était vraiment inattendu.
Inattendu, mais pas très surprenant parce qu'il y a des jeunes qui s'entraînent très, très fort là-bas, qui, leur but, comme beaucoup de joueurs de goalball, c'est de faire l'équipe canadienne. Ça fait qu'ils ont démontré que...
ils étaient capables.
Oui, 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 oui. Puis,
est-ce que vous avez... pardon?
Puis notre équipe du Québec, tu sais, t'as des tournois comme ça, là, que rien ne va.
Oui, oui, ça peut arriver.
Oui, mais ça, c'en était un. Fait que bon. C'est mieux que ça soit là qu'au championnat canadien quand même.
Oui, qui s'en vient quand?
C'est en avril à Calgary, du 27 au 29 avril à Calgary.
Bon, alors ils ont du temps là, pour travailler puis se sentir prêts pour ce tournoi encore plus important?
Oui. Oui, 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 oui.
Est-ce que vous avez eu une bonne assistance au centre récréatif Gadois? Est-ce que le centre était plein?
Je vous dis plein, pas nécessairement. C'est sûr que le dimanche, il y a toujours beaucoup plus de gens dans l'assistance parce que toutes les équipes qui ont été éliminées sont là pour voir. Pas nécessairement. Tu sais, le centre Gadbois, malheureusement, il est sous l'échangeur Turcot.
Mm-hmm.
Difficilement accessible. Puis d'une année à l'autre, dans les 3-4 dernières années, on prend jamais le même chemin.
Bon.
Parce qu'il y a toujours des rues, il y a beaucoup de constructions à l'entour.
Faudrait changer d'endroit peut-être?
Si vous me trouvez un gymnase qui a deux, un endroit qui a deux gymnases en bois.
Oui.
De la ville de Montréal, c'est le seul qu'il y a, malheureusement.
Ah, c'est le seul?
Oui, c'est ça. Saint-Claude-Robillard, il y a des beaux gymnases, mais ça glisse pas du tout, puis ça prend quand même un endroit qui glisse.
Bon,
là.
Ça prend du bois.
Ça prend du bois. Oui, fait que...
Vous n'avez pas le choix.
Non, c'est ça, malheureusement. Et, non, mais c'est une belle place, quand même.
Oui, j'imagine. Et Nathalie Chartrand, du côté du mini-goalball, cette fois, chez les plus jeunes, quelles sont les nouvelles?
Les nouvelles, c'est que ça a commencé dimanche dernier, du côté francophone, à l'école Joseph Charbonneau. Et ça commence ce soir à l'école M.A.B. Mackay.
Oui. Sur la rue Mackay, non?
Pardon?
C'est situé où?
C'est sur Philip Layton, l'école Philip Layton. C'est situé... En fait, je suis désolée, j'ai pas l'adresse sous les yeux.
Mais est-ce que tout le monde est invité à aller voir l'événement?
Du côté anglophone, c'est seulement les clients du MAB Mackay qui peuvent y aller.
Bon, alors ils doivent connaître l'adresse.
Oui, bon, en principe, eux, ils la connaissent.
Oui.
C'est ça. Puis on a quand même le goalball récréatif là, pour les 14 et plus, les vendredis soirs, au métro Saint-Henri, qui est au centre communautaire Saint-Henri.
Ah là. Oui.
Il est vraiment à deux pas du métro. Là. C'est vraiment agréable pour ça.
Oui, agréable et accessible.
Oui, oui. On aime ça, l'accessibilité. Puis quand on n'a pas trois autobus à prendre pour s'y rendre. Pour l'instant, le goalball, ça va bien. On a du côté francophone, du côté anglophone. On a du récréatif.
Mm-hmm.
Puis on a nos athlètes qui continuent, là, qui partent là, dans deux semaines pour aller au Michigan.
Bon, ça bouge chez vous.
C'est ça le but. Faut se réchauffer, c'est l'hiver.
Oui. Et vous êtes une association sportive pour les aveugles du Québec. Je peux pas m'empêcher de vous poser la question. C'est pas un piège du tout, là, mais je me demandais si la SAC s'impliquait d'une façon spéciale pendant la semaine de la canne blanche qui est en cours.
Bien, on va présentement, comme aujourd'hui, on s'en va au Carrefour. Je suis pas bonne, hein, mon Dieu, j'ai plein de blancs de mémoire. C'est sur Côte-Saint-Luc, on s'en va parler de la SAC à des nouvelles associations qui sont là-bas. C'est des personnes probablement plus anglophones que francophones. On va dans des écoles où il y a des jeunes qui ont un handicap visuel, puis on va faire bouger leur classe en les faisant jouer au goalball, faire des petites conférences. Fait que c'est de cette manière-là...
Que vous vous impliquez.
Qu'on s'implique, oui, c'est directement à des personnes qui vivent avec un handicap visuel.
Oui, et les jeunes doivent vous aimer parce que en général, les jeunes aiment quand il y a de l'action.
C'est un nouveau sport pour eux, là. Fait que, tu sais, dans la classe de la petite jeune qui ne voit pas, tous ses amis, ils voient, là.
Oui.
Fait que là, c'est l'inclusion à l'envers. Oui. Là, c'est eux qui s'en viennent dans leur monde, puis là, ils trouvent ça bien hot de bander ses yeux puis d'essayer d'attraper le ballon. Ils trouvent ça dur, puis ils trouvent ça le fun. En général, là, l'accueil est super bon.
Oui, une nouvelle expérience.
Oui, ça leur fait comprendre aussi ce que leur petit ami...
C'est important, ça.
Oui, je crois que oui.
Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. Merci pour l'entrevue, puis à la prochaine.
Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Vous aussi. Bloc national-international, budget 2018-2019 du Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial accorde une place de choix aux aînés dans son budget 2018-2019. Le document déposé la semaine dernière par la ministre des Finances comprend de nombreuses mesures afin de composer avec le vieillissement de la population. Cathy Rogers a annoncé de nouveaux investissements totalisant plus de 20 millions de dollars afin d'aider les aînés à demeurer engagés, actifs et indépendants dans leur maison. Ces nouveaux fonds seront saupoudrés afin de financer diverses initiatives. Une partie importante de l'argent servira à aider le réseau de foyers de soins à accueillir les aînés, qui sont de plus en plus nombreux à cogner à leur porte. Les libéraux dépenseront par exemple 1,25 million pour financer un projet pilote qui dotera des foyers de soins spéciaux de lits transitoires pour les patients dont le séjour sera court, ce qui libérera des lits de soins actifs. La ministre Rogers a aussi annoncé que la somme de 12 millions servira à augmenter les salaires des employés de foyers de soins spéciaux et des travailleurs de soutien à domicile. En plus des mesures comprises dans les 20 millions pour aider les aînés, le gouvernement Cathy Rogers a indiqué que son gouvernement investira 11,3 millions afin d'aider financièrement les proches aidants qui accompagnent les adultes et les aînés handicapés. Le RAM vous invite à un 5 à 7 pour souligner la semaine de la canne blanche. C'est demain, mercredi 7 février, de 17h à 19h, animé par Yvon Provencher. 5$ pour y accéder. C'est une occasion de partager votre expérience. Que préférez-vous utiliser? Pourquoi? À votre avis ou selon votre expérience, quels sont les avantages et les inconvénients à se servir d'une canne blanche ou à utiliser un chien guide? Vous êtes peut-être en train de réfléchir afin de déterminer si un chien guide est peut-être pour vous. Cette rencontre pourrait vous éclairer dans votre décision finale. Un petit goûter vous sera offert. Inscription obligatoire avant le 2 février avec Anna au 514-277-4401, poste 111 ou par courriel à administration@ram.org. Prenez note que vous devez obligatoirement être membre du RAM pour pouvoir vous inscrire à cette activité. C'est déjà tout pour les paractualités de ce 6 février 2018. Merci à Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Merci à mes invités qui étaient Nathalie Chartrand de la SAC ainsi que à France Monahan, maman de Joël et membre du regroupement pour la trisomie 21. Ici Hélène Denis qui vous remercie, vous, d'avoir été présent. On se retrouve demain. Bonne journée.